Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Manger sainement.
La méditation. Échanger avec les autres.
C'est bon pour la santé.
Respecter mon rythme à moi.
Le bénévolat.
C'est bon pour la santé.
On est de bien meilleure humeur.
J'adore cuisiner pour moi, pour mes enfants.
J'ai mille fois plus d'énergie que j'en avais avant.
Pas trop de sucre, pas trop de sel, pas trop de gras. Faut pas virer fou.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon mardi, bon début d'après-midi. J'espère que tout se passe bien chez vous. C'est Marianne Paquette pour les 30 prochaines minutes. L'émission C'est bon pour la santé qui débute à l'instant sur Canal M. Eh bien, si vous avez des enfants à la maison en ce moment, vous entendez sûrement parler beaucoup du Père Noël. Mais il y a peut-être certains parents qui sont plus ou moins à l'aise avec tout ça, hein, qui se demandent « Est-ce que je mens à mon enfant? Est-ce que c'est correct? Qu'est-ce que je dois lui dire par rapport à cette croyance-là? » Des parents aussi qui se disent « À un moment donné, il va constater par lui-même que tout ça est un mythe, une belle histoire, mais bon, qui n'est pas réelle. Est-ce qu'il aura de la peine? Comment je peux lui éviter cette déception? » Beaucoup de questions et c'est difficile d'y répondre. Il n'y a pas beaucoup d'études à ce sujet. Toutefois, j'ai réussi à joindre quelqu'un qui a lu beaucoup là-dessus, Serge Larrivé, professeur titulaire à l'École de psychoéducation de l'Université de Montréal. Il sera là en deuxième partie d'émission pour en discuter avec nous. Et puis d'abord, vous dire qu'en novembre dernier, la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer lançait au sein de plusieurs sociétés Alzheimer du Québec le programme Music and Memory, qui fait appel à la musique pour améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Donc, de quelle façon la musique peut avoir un impact sur des personnes qui vivent avec cette maladie? J'en parle à l'instant avec José-Lisa Lefrançois, elle directrice générale par intérim de la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer, et Lise Lalande, directrice générale de la société Alzheimer Laval. José-Lisa, bonjour.
Bonjour, bonjour Marianne.
Lise Lalande, bonjour.
Bonjour.
Une première, donc, pour ce programme de musicothérapie, une première au Québec, un programme qui est extrêmement novateur, à mon sens, du moins unique également, et qui a fait ses preuves un petit peu partout à travers le monde. Il y a 125 000 personnes qui vivent avec la maladie Alzheimer ici au Québec. Ça pourrait également changer des choses sur leur qualité de vie et, bien sûr, avoir des répercussions sur toute la famille. On avait envie d'en parler aujourd'hui. Tout d'abord, en quoi ça consiste, ce programme-là, qui s'appelle Music and Memory?
Je peux répondre, c'est Lise à Laval.
Oui!
Music and Memory, c'est un programme qui permet d'apporter de la musique personnalisée à une personne atteinte de troubles cognitifs. Ça peut être aussi une personne qui a un autre problème de santé qui la rend moins autonome. Alors, c'est vraiment d'aller chercher la musique qui est très significative pour la personne qui l'écoute.
Mm-hmm.
Et de lui apporter la musique à travers un appareil iPod et un casque d'écoute.
Lise Lalande, à Laval, vous êtes la première société Alzheimer qui ait reçu ou du moins mis de l'avant ce programme-là. Comment ça s'est passé? Pourquoi est-ce que c'est vous qui avez entendu parler de ça?
J'avais vu le documentaire Alive Inside, qui a été créé là, justement sur le programme Music and Memory. J'avais vu le documentaire en novembre l'année dernière. Et j'avais été emballée parce que ça pouvait apporter comme bonheur, quiétude aux personnes atteintes. Alors, j'en ai parlé au travail, puis on avait déjà quelques intervenantes qui, tout naturellement, avaient commencé à faire écouter de la musique significative à certains de nos participants, entre autres des personnes qui avaient des problèmes d'anxiété.
Mm-hmm.
Alors, et qui nous disaient, mais oui, c'est vrai que ça fonctionne tellement bien, c'est incroyable. Alors, je me suis informée auprès de Dan Cohen, qui est le fondateur du programme Music and Memory aux États-Unis, et qui m'a expliqué comment ça fonctionnait. J'ai suivi la formation. On est devenu certifié. Alors, on était la première ressource au Québec à être certifié Music and Memory et à la mettre en application avec nos clients.
Bien sûr, on va revenir sur tous les impacts positifs pour la personne qui est elle-même atteinte de la maladie d'Alzheimer. Mais il y a d'autres bénéfices parce que, assez accessible, la musique, il y en a partout. Puis en même temps, les coûts, est-ce qu'ils sont élevés? Est-ce que vous pouvez voir les impacts positifs par rapport à ce programme-là?
Des impacts, si on parle en fait des bienfaits que peuvent apporter un programme comme Music and Memory, d'abord, on apporte des moments vraiment de plaisir à la personne atteinte d'abord. Mm. Alors, c'est un objectif vraiment honorable en soi. La musique aussi, ce qu'on a constaté, c'est que ça réduit l'anxiété, le stress. l'ennui ainsi que la déprime que peuvent ressentir justement bien souvent les personnes atteintes. C'est aussi une stimulation qui est très agréable en quelque mm-hmm. sorte et qui en fait procure une façon, si on veut, de communiquer ou de s'exprimer aussi à la personne qui, à un certain moment dans la maladie, par exemple, le langage devient un peu moins évident. Alors, ça devient une autre alternative fort intéressante. Et comme il s'agit de pièces personnalisées, comme Lise le disait, et qui sont sélectionnées selon les goûts de la personne, mmh. elles ravivent aussi la mémoire lointaine qui est chargée, bien souvent, de belles émotions. Alors, ça apporte justement à la qualité, à la dimension de cette qualité de vie. Il y a le moral, l'humeur aussi qui s'améliore avec l'écoute de cette musique. Les personnes sont plus réceptives aussi à ce qui se passe autour d'elles. Elles sont plus en interaction mm-hmm. avec l'entourage. Et la musique permet aussi aux soignants, les gens qui évoluent autour des personnes, qui leur apportent des soins, de l'accompagnement, la famille bien entendu, de vivre des moments agréables avec ouais. la personne qui est atteinte, toujours par le biais de cette activité-là. Et entre autres, tout ce que je vous résume ici, on le voit tellement bien dans une vidéo qui a pour titre « Henry », où on mm-hmm. voit justement, qui est très, très représentatif, là, je vous le dis, des effets quasi magiques finalement de ce programme. Et on peut constater les effets d'ailleurs instantanément. La personne, le Henry en question, s'éveille, revit, c'est en quelque sorte une autre personne qui submerge. Alors, c'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel à constater.
Et d'après les notes que j'ai sous les yeux, 11 millions de personnes ont visionné cette vidéo oui. Henry sur YouTube, donc accessible si vous avez envie d'y jeter un coup d'œil. J'aime beaucoup lorsque vous abordez le rapport au contact que ça peut créer, parce que évidemment, lorsqu'une personne est atteinte par la maladie dans notre famille, on devient soit un proche aidant, du moins on l'accompagne, ça peut être assez difficile, cette perte de contact, la rupture en fait de la relation mm-hmm. qui s'installe à cause de la maladie. J'ai l'impression que Music and Memory, ça ravive aussi ce que l'on peut partager avec la personne que l'on a aimée.
Tout à fait. Élise, tu seras d'accord avec moi. Tu pourras compléter aussi par expérience avec le programme qui est déjà implanté chez vous à Laval. Mais oui, effectivement, quand je parlais tantôt d'une qualité de vie, mais aussi de la notion de plaisir qui revient dans la relation et juste la relation aussi qui s'établit entre deux être, c'est vraiment exceptionnel. Et je pense aussi à la génération plus jeune, par exemple les adolescents qui parfois au contact de leurs grands-parents sont un peu mal à l'aise ou se sentent comme inutiles oui. face à la situation, un peu impuissants, alors qu'ils peuvent complètement s'investir dans ce programme-là ou cette activité-là, de par leur intérêt, entre autres pour la technologie ou l'informatique. Alors ça crée des liens très très intéressants. C'est mm-hmm. vrai, Lise?
Absolument, oui. C'est des bienfaits.
L'autre aspect positif auquel je m'intéresse, et c'est ça que je voulais aborder un petit peu aussi tout à l'heure, c'est tous les bénéfices, oui, pour la personne atteinte, pour la famille, mais pour les sociétés Alzheimer, il y en a aussi, j'imagine, ne serait-ce qu'un coût qui est relativement faible, j'imagine, pour améliorer la qualité des personnes atteintes.
Oui, en fait, et là-dessus, je voulais faire du pouce sur ce que Lise disait tout à l'heure, parce que eux, en fait, comme société Alzheimer régionale, du côté de Laval, ils ont été nos pionniers avec ce programme. Là, d'ailleurs, quand Lise est venue nous présenter le programme à notre réunion provinciale avec toutes les sociétés à travers le Québec, ça a été un engouement. Tout le monde disait, oh, on aimerait vraiment avoir ce programme chez nous. Et finalement, presque au même moment, s'est présenté un donateur. Mm-hmm. Un donateur qui a donné une partie de son don pour la recherche, pour des plans, des projets de recherche bien spécifiques, toujours en lien avec la qualité de vie, et qui voulait aussi investir du côté des programmes et services ici au Québec. Alors, il s'est tourné vers la Fédération et nous a demandé qu'est-ce qu'on pouvait dispenser comme service. Alors, on a parlé à ce moment-là de ce nouveau programme qui arrivait et qui suscitait beaucoup d'intérêt dans nos sociétés. Et il s'est montré tout de suite intéressé. En fait, je pense qu'il a même eu un coup de foudre pour le programme, lui-même étant amateur de musique et tout. Alors, il a décidé de nous accompagner là-dedans. Alors, c'est avec cette importante donation de Fasken Martineau, il faut quand même que je les mentionne, qu'on a pu ainsi accréditer, dans le fond, les sociétés régionales par un webinaire de formation de Music and Memory et aussi procédé à l'achat de matériel, donc MacBook, iPod,
ouais, oui, oui, oui.
Et casque d'écoute, pour ensuite dispenser le service à travers les sociétés.
Donc, Faskin et Martineau, cabinet d'avocats bien connu ici. Justement, on parle beaucoup ensemble, José Lisan, Élise, de toute la formation. J'imagine que c'est pas n'importe qui peut accompagner une personne atteinte d'Alzheimer à travers le programme. Comment ça se passe, la transmission d'informations auprès de vos membres, de vos employés?
Je vais laisser parler l'expérience avec Lise.
Ben, justement, c'est un des bénéfices de ce programme-là, c'est que c'est facile à implanter. La formation, c'est pas si compliqué. Il y a une petite formation au niveau de la technologie, comment télécharger la musique dans un... Nous, on utilise les iPod Shuffle parce qu'ils sont tout petits. Mm-hmm. On peut même les mettre là derrière le col du vêtement de la personne atteinte et ils s'en rendent même pas compte. Là, ça pèse rien, c'est pas encombrant. Et tout ce que ça demande, vraiment, c'est de la bonne volonté. Et je dois dire que les bénéfices sont tellement importants pour les intervenants que d'eux-mêmes, ils deviennent passionnés du programme et ils veulent s'investir parce que l'interaction, la communication, la relation avec les personnes atteintes est tellement améliorée. Alors, ça demande tout simplement de suivre le webinaire de Music and Memories. Alors, c'est 3 sessions de 45 minutes. Ça se passe en 3 jours consécutifs. Et par la suite, bien sûr, on a des personnes chez nous qui sont un petit peu plus versées vers la technologie et puis qui, à ce moment-là, qui font le téléchargement des pièces musicales et tout ça dans l'ordinateur. Et bien sûr, on offre aux intervenants des listes de chanteurs, de différents orchestres, différents types de musique avec lesquels ils peuvent commencer à travailler auprès de la personne atteinte si elle peut encore communiquer ses goûts. Et sinon, ben, on peut travailler avec les familles à savoir, bon, qu'est-ce que votre père écoutait, qu'est-ce que votre mère écoutait, quand ils se sont mariés, c'était en quelle année, quel genre, qu'est-ce qui était à la mode. Et c'est comme ça qu'on va aller bâtir un répertoire propre à la personne, mais de musique qui est absolument significative.
Ouais.
Et on valide avec la personne après. Alors, on va s'asseoir avec la personne qui va avoir les écouteurs et on valide chaque pièce musicale. S'il n'y a pas une étincelle, s'il n'y a pas une réaction d'immense plaisir, on la retire, la pièce musicale. C'est pas ça.
Mais ça, c'est assez intéressant, cette création de listes de pièces musicales personnalisées. Pourquoi c'est si important? Parce que c'est vraiment ces pièces-là qui font appel à la mémoire de la personne?
Exactement. C'est un peu comme n'importe qui. On va écouter une certaine pièce de musique et puis tout le monde, tout d'un coup, on a le goût de danser.
Ouais.
C'est comme plus fort que nous. Il y a des pièces musicales qu'on veut pas écouter dans l'auto parce qu'on va probablement aller un petit peu trop vite. Alors, c'est la même chose. C'est presque, ça va aller chercher une émotion qui dépasse tout. Alors, c'est vraiment important d'avoir cette crème de la crème des pièces musicales. Oui. C'est pas juste toutes les chansons de Gilbert Bécaud, mais c'est
certaines
quelques chansons.
Oui, oui.
Exactement.
C'est vrai qu'on est à la recherche de l'étincelle. Alors, c'est pourquoi on parle de personnaliser. Puis, souvent, la musique est associée à tellement de périodes de notre vie, puis des moments tellement marquants. D'ailleurs, simplement à écouter quelques notes, on va se replonger dans un contexte, une ambiance ou un souvenir qu'on a vécu. Alors, c'est l'importance de ces bandes vraiment personnalisées.
Mm-hmm.
Vous parliez de formation tout à l'heure aussi. Au-delà de la formation pour Music and Memory, il faut dire que les intervenants qui sont là et qui font vraiment de l'accompagnement auprès des personnes ont aussi une approche, l'approche qui est propre au mouvement Alzheimer ici au Québec, vraiment personnalisée, donc centrée sur les besoins de la personne. Alors, évidemment que ça, c'est comme un outil de plus pour faire leur travail et le faire, comme je le disais encore et je le répète, dans une notion de plaisir et d'une certaine légèreté aussi.
Oui.
Ça nous sort un peu du contexte lourd de la maladie.
Et j'imagine aussi de voir les impacts d'une façon très, très rapide, très visuel. Mm-hmm. Je fais un petit peu du pouce parce que, bon, le programme Music and Memory a fait l'objet d'une entrevue dans le cadre de l'émission Banc public à Télé-Québec, animée par Guylaine Tremblay. J'ai vu cet extrait et, bon, on voit donc le programme vraiment installé. C'est chez vous, ça, Lise Lalande, qu'on est allé tourner?
Oui.
Voilà, donc on voit vraiment l'impact du programme sur les personnes qui vivent avec la maladie. Et l'intervenant dit, ben moi aussi, ça allège mon travail. Mm-hmm. Moi aussi, ça me fait du bien parce que soudainement, je les vois plus dans l'inertie ou dans une espèce de vide. Je les vois avec un sourire, je les vois danser. Et toute l'ambiance du travail est changée par le programme.
On parlait de qualité tout à l'heure, mais c'est dans les deux sens. En fait, tout le monde est gagnant là-dedans. Et je parlais aussi du personnel qui accompagne, le personnel qui soigne, qui veille, qui est là autour, la famille. Tout le monde en retire quelque chose. Et quand on voit, entre autres, le fameux petit vidéo Henry, là, on voit le monsieur qui est complètement isolé dans son monde à lui, qui n'a aucune interaction avec l'accompagnatrice qui passe à côté de lui, qui lui pose des questions et il la voit pas, il la regarde pas, il fait aucun cas. Et à partir du moment où on lui fait entendre la musique que lui aimait, adorait à une certaine époque, il s'anime et lorsqu'elle lui retire le casque d'écoute, elle lui pose des questions, il lui répond et il interagit avec elle pour la première fois depuis je ne sais combien de temps. Alors c'est vraiment presque miraculeux. Oui.
On voit tous les bienfaits de la musique. Est-ce que vous savez tous deux si Music and Memory pourrait s'adresser à d'autres types de gens qui vivent avec d'autres types de maladies?
Oui, ben effectivement, il y a des applications pour des personnes qui souffrent d'autres maladies où ils sont alités pendant de grandes périodes. Aussi, il y avait cet homme qui avait fait un témoignage qui devait avoir de la dialyse 3 fois semaine et qui terminait jamais son traitement parce qu'après quelques heures, je suis juste plus capable de rester assis là. Et avec Music and Memory, ben il peut avoir ses traitements complets. Alors oui, il y a d'énormes applications, aucune contre-indication. C'est de la musique, ça coûte pas cher, c'est facile.
Juste du bon, donc ça devrait faire des petits bébés un petit peu partout en province. Justement, comment ça s'articule autour de la fédération, José-Lisa?
Ça va très bien. En fait, il nous reste, nous avons 20 sociétés régionales, donc à travers le Québec, il nous reste 3 sociétés à être accréditées sur ces 20. On attend d'ailleurs de pouvoir se connecter aux prochains webinaires en français qui sont malheureusement moins fréquents qu'en anglais. Alors, ça a été, je crois, Lise, une première aussi d'offrir du côté de Music and Memory, un webinaire en français. Ça s'est fait au début septembre. Malheureusement, c'est pas tout le monde qui a pu se brancher à ce moment-là, ce qui fait qu'il nous reste 3 sociétés à accréditer. Et l'avantage, bien évidemment, c'est que les sociétés Alzheimer sont donc partout sur le territoire québécois et vont être en mesure de dispenser le programme sur leur territoire respectif. Alors, on est très fiers, d'ailleurs, d'être ici les premiers au Québec, il faut le dire, à être accrédités par Music and Memory.
Donc, ici, au Québec, ça se passe comme ça. Est-ce que l'on sait, Music and Memory, comment ça se passe ailleurs dans le monde?
C'est un programme américain. Alors, Music and Memory est extrêmement répandu aux États-Unis, bien sûr, et dans des pays anglophones. Nous, on était les premiers francophones à les contacter et à demander à avoir la formation en français, ce qui a été organisé quand même relativement rapidement pour nous. Et moi j'ai présenté le programme un petit peu comme ça avec une autre résidence avec qui on fait des échanges sur Skype. Alors ça devrait commencer à être propagé là, en France aussi dans les mois qui viennent.
Et à faire des petits, comme on dit.
Oui, ouais. Voilà. Mais coup de chapeau à vous deux d'être les précurseurs ou pionnières de ce programme-là, d'en être aussi les ambassadrices parce que ça a... c'est simple, c'est relativement simple. Ça n'a que des bienfaits pour les personnes, les 125 000 personnes ici au Québec qui vivent avec cette maladie-là, toute leur famille et même les intervenants. Merci de le faire. Merci.
Bien, merci à Lise aussi, la Société de Laval, de nous avoir introduit à ce programme-là. Merci également à notre donateur avec qui on peut justement le répandre partout au Québec.
José-Lisa Lefrançois, directrice générale par intérim de la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer. Et Lise Lalonde, du côté de Laval, directrice générale de la Société Alzheimer. Merci beaucoup à vous deux.
Merci, Marianne.
Merci.
Au revoir.
Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.
Votre quartier a mis en place une initiative pour améliorer le bien-être de ses citoyens. Vous avez adopté de nouvelles habitudes de vie et depuis, vous dormez mieux? Votre handicap ne vous empêche pas de suivre des cours de danse? Marianne veut tout savoir sur la santé. Partagez vos expériences à canalm@buzevoix.com ou par téléphone au 1-800-361-0635, poste 220. Suivez C'est bon pour la santé sur Facebook et Twitter.
Serge Larrivé, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur titulaire à l'École de psychoéducation de l'Université de Montréal. Serge, les super-héros, les monstres, les princesses, le Père Noël, l'enfant, il vit dans un monde magique, parfois, là, du moins dans une pensée magique. Il s'imagine des histoires, des scénarios, les croyances, ça prend beaucoup de place dans son monde à lui. C'est quoi l'importance des croyances dans son développement?
C'est-à-dire qu'à cet âge, avant l'âge de raison, vers 7 ans, les enfants ont beaucoup de croyances. Et la croyance au Père Noël s'inscrit dans cette période-là. Et c'est normal. C'est-à-dire, voyez-vous, vers 4 ans, presque 90 % des enfants croient au Père Noël. Mm-hmm. Et vers 7 ans, on est tombé en bas du 50 %.
OK, ça se poursuit.
À 9 ans, il y a encore des 17 % des enfants qui y croient ou qui y croient pour faire plaisir à leurs parents qui aiment qu'ils croient au Père Noël.
Oui, oui, oui.
C'est l'autre chose.
Mais ouais. Serge, est-ce qu'il faut se sentir mal à l'aise en tant que parent de mentir, d'entretenir le mythe?
Ah non, mais écoutez, non, ça c'est très intéressant votre question, mais les parents ne mentent pas nécessairement.
Mm-hmm.
Parce que souvent, quand l'enfant demande « Est-ce que c'est vrai le Père Noël? » Souvent, les parents retournent la question. Toi, est-ce que tu y crois? Bon, un. Deux, je me souviens d'un père qui disait à son fils « Raoul, comment il va faire le Père Noël pour rentrer chez nous? Il n'y a pas de cheminée! » Et son fils de répondre « Papa, voyons, le Père Noël a une cheminée portative pour les maisons qui n'en ont pas. » L'année suivante, le même père dit à son fils, « Tu vas oublier de préparer le lait et les biscuits pour le Père Noël. » Et le fils de répond, « Ah, il servira tout seul. »
Ah oui!
Alors, voyez-vous, en un an, la baisse ça avait comme baissé. Là. La croyance était beaucoup moins ferme. Et quand les enfants cessent de croire au Père Noël, c'est comme une espèce de passage. Là, ils se rangent du côté des adultes pour leurs frères et sœurs, donc, de continuer à leur faire croire que le Père Noël existe.
Mm-hmm. Donc, ce que vous conseillez, c'est de ramener les questions à notre enfant. S'il
pose des questions... C'est une façon drôle de faire. Par exemple, je ne sais pas, moi, quand, par exemple, comment ça se fait qu'il y a autant de Père Noël dans chacun des magasins? Ben, l'enfant répond souvent, écoute, il y en a un vrai, puis il a besoin d'aide.
Oui.
Alors, voyez-vous, les parents se comportent, je trouve, la plupart du temps, très intelligemment par rapport à ces croyances-là.
Mais probablement, Serge, parce qu'on a nous-mêmes été des enfants.
Ben
donc,
oui.
On se rappelle très bien je pense, c'est tellement marquant dans la vie d'un enfant, on se rappelle de ces moments-là et de comment nos parents interagissaient avec nous. Et je trouve que ces questions-là, c'est une bonne idée parce que c'est une façon d'évaluer où notre enfant en est dans ses croyances, dans sa maturité aussi.
Tout à fait.
Par rapport à ces mythes-là. Maintenant, si notre enfant est déçu autour de 7-8 ans, comment on peut gérer sa déception, apaiser ça un petit peu?
Ben, écoutez, c'est parce que vous posez qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont déçus. Les travaux de recherche montrent que la déception, elle est relativement brève, surtout qu'ils se rendent compte que tous ses amis ne croient plus au Père Noël. Ils se rangent du côté de ceux qui n'y croient plus. Hein. C'est très, très rapide, ça, là. C'est très, très rapide. Et comme il y avait beaucoup d'indices que le Père Noël n'existe probablement pas, ben ça devient relativement facile de pencher du bord de la raison.
Hein? Et j'imagine, comme vous le disiez tout à l'heure, ça c'est intéressant, bon, on se met du côté de l'adulte, c'est peut-être une façon aussi de nous prendre l'enfant comme un allié pour qu'il nous aide à faire croire le mythe encore à ses petits frères, petites sœurs.
Exact. Et ça fait partie de la fête de Noël, du mythe, là. Voilà.
Ouais. Donc, on peut demander à notre enfant de garder le secret pour ses frères et sœurs plus jeunes. Ça
ah,
se
bien
fait,
sûr,
ça?
Bien sûr. Et il va le faire. Écoutez, à ma connaissance, il n'y a pas d'enfant ultra fâché qui dit non, je vais leur dire. Et puis, enfin, il y en a peut-être, là, mais je ne connais pas ça.
Il y aurait des comportements à éviter, quels seraient-ils? Est-ce que, par exemple, dire à son enfant « Sois sage, sinon le Père Noël ne viendra pas », c'est adéquat?
J'ose espérer qu'il n'y a aucun parent qui dit ça. Mm-hmm. Même si je suis, d'un autre côté, convaincu que des parents parfaits, c'est la pire chose qu'un enfant peut avoir. On a droit à nos erreurs, mais il y a des limites, là. Ça, c'est une pression totalement inutile.
Mais moi, je pense que l'on entend souvent une façon peut-être d'espérer que notre enfant soit plus tranquille.
Non, je comprends là, qu'il y a des parents qui quelquefois en aient marre, mais c'est vraiment pas nécessaire. Là.
OK.
C'est vraiment pas nécessaire.
Donc, on
si
évite...
on peut l'éviter, là, évitons-le. Là.
On évite ce genre de pression-là.
Oh, oui, tout à fait, tout à fait.
Ouais. On fait quoi, Serge Larrivée, si notre enfant a peur du Père Noël?
on va pas le voir! Puis, ça, c'est assez drôle. Hein? Il y a des enfants vraiment, qui ont peur du Père Noël. Mais on peut comprendre. Hein? À 3 ans, 2 ans, 4 ans, peut-être que là, c'est quand même un personnage bizarre. Hein? C'est aller s'asseoir sur ses genoux là, avec une grosse barbe comme ça, là, ça c'est pas drôle. Là, je pense des fois tout le temps. Là. Mais bon,
donc, on ne pousse pas, on n'insiste pas.
Ben non.
Oui.
Ben non, franchement. Ben non. C'est pas nécessaire.
C'est drôle que, parce que bon, évidemment, Serge, je n'ai pas choisi ce sujet-là pour rien. C'est que je sais que dans mon entourage, il y a ce genre de questionnement-là auprès des parents. Mais en même temps, on ne va jamais interroger les croyances de notre enfant envers les super-héros, envers les dragons, envers les princesses, envers les monstres.
On considère
que ça fait partie normale, je dirais, de leur développement, que c'est dans leur univers. Mais le Père Noël, on sent une petite...
C'est vrai. Ben moi, j'ai une autre question pour vous.
Mm-hmm.
Comment se fait-il que les enfants qui attribuent les mêmes pouvoirs à Dieu et au Père Noël cessent de croire au Père Noël et continuent de croire en Dieu?
Oui.
Mais c'est pas à vous qu'il faut que je pose la question, bien sûr. Là.
Ben, c'est une question qu'il est pertinent de poser et auquel on peut réfléchir, mais en même temps, ce que je vous dirais, c'est que bon nombre des gens, du moins dans ma génération, croient de moins en moins en Dieu également.
Oui, je sais. Alors, je pose la question comme ça parce qu'on a étudié le phénomène. Alors, c'est très, très intéressant de voir ça.
Bien, on mettra sur notre site, Serge Larrivée, justement, les études, les lectures que vous avez faites en ce sens-là. Je le rappelle, vous êtes professeur titulaire à l'École de psychoéducation de l'Université de Montréal. Merci et joyeux Noël, Serge.
Ça m'a fait plaisir.
Au revoir.
Au revoir.
Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde. C'est Marianne Paquette au micro. Et demain, je reçois Dr. Marc-José Bédard. On parle d'avoir un bébé après 40 ans. Quels sont les risques? Et il y a Jennifer Grenier, maman, qui sera là également. C'est un rendez-vous 14h. D'ici là, portez-vous bien. Bye-bye.